Chapitre 6. Pendant que le docteur Stébron parlait au juge d'instruction, M. Desjonchères, accompagné d'un vieil avoué, traversa la salle où Mlle de Plémont attendait. « Quelle belle personne » dit-il. « Oui, mais comme elle a l'air pensif. » « Et inquiet, ce me semble. Elle désire sans doute un renseignement, car elle a fait un mouvement vers nous. Je vais le lui demander. » Il s'approcha de Gertrude. « Cherchez-vous quelque chose, madame? Puis-je vous renseigner ?»« Oh non, merci. J'attends seulement quelqu'un. »« Mille pardons, madame. J'avais cru, en passant près de vous, que vous désiriez nous questionner. »« Non, monsieur. » Il s'éloigna sans se douter qu'il avait parlé à la femme dont la défense lui était confiée. Il ne croyait pas au succès immédiat des recherches de son ami, et malgré sa conversation de la veille avec Stébron, il ne fit aucun rapprochement. Mais avant de quitter la salle, il se retourna machinalement et aperçut encore le joli profil de Gertrude. Après le petit incident qui venait d'interrompre pendant une seconde le cours de ses réflexions, Mademoiselle de Plémont s'absorba de nouveau dans ses pensées, sans remarquer les regards des jeunes avocats qui passaient et que son attitude, jointe à sa beauté, frappait ou intriguait. Elle ne songeait pas à l'accusation portée contre elle, mais à l'amour de Bernard. Cet amour si fort, qui ne reculait devant rien, la remplissait d'une joie si profonde, si envahissante, qu'elle oubliait même le motif de sa présence au palais de justice. Son père, la mort de M. de Chantepie, était relégué au second plan, et quand un huissier, à qui Stébron avait désigné de loin la jeune fille, s'approcha d'elle en la priant de le suivre, elle avait pris une décision. « Pourquoi refuserais-je plus longtemps? Il sait tout et il veut bien. » Elle se sentait réconfortée au point que les fardeaux de la vie ne pesaient plus sur elle. Cette impression la soutenait encore et donnait à sa physionomie une expression résolue quand elle entra dans le cabinet du juge. Mais elle se troubla en n'apercevant pas M. Stébron. « Veuillez vous approcher, mademoiselle, » lui dit M. de Monvoy en désignant un siège. « Où est le docteur Stébron ? » demanda-t-elle avec inquiétude. « Je croyais me retrouver ici avec lui. » « Il reviendra plus tard. » Il n'avait pas le droit d'assister à l'interrogatoire. Pourquoi donc? Je lui reconnais tous les droits et j'aimerais mille fois mieux qu'il fût auprès de moi. Moi seul dois trancher cette question, mademoiselle, répondit le juge qui ne put réprimer un sourire. Mais si vous désirez que M. Desjonchères, l'avocat choisi pour vous par M. Stébron, vienne ici, nous allons le faire appeler. L'avocat choisi pour moi par M. Stébron, répéta-t-elle lentement. « Non, je n'en veux pas !» De ce moment, comprenant mieux la gravité de la situation, elle s'effraya. Néanmoins, elle remarqua l'air bienveillant du magistrat et l'expression d'un greffier qui, le menton dans sa main, la regardait curieusement. Ce regard, ou quelque chose, déplut violemment à Mlle de Plémont, éveilla chez elle un sentiment de hauteur qui lui rendit toute sa présence d'esprit. Malgré l'invitation qui lui fut encore adressée, elle resta debout, la main appuyée sur le dossier d'une chaise, et répondit d'un ton bref aux questions sur son nom, son âge et sa demeure. « Vous savez déjà, mademoiselle, pourquoi j'ai désiré vous voir, et… »« Monsieur Stébron me l'a dit, » interrompit-elle, « et je ne m'explique pas qu'un homme comme vous, à l'air bon et intelligent, ait une idée aussi absurde. » Cette attaque naïve, en même temps très ferme, eut amusé M. de Monvoy sans le sérieux des circonstances. Quant au greffier, il sourit franchement. « Laissez-moi achever, mademoiselle. Je dois vous dire moi-même, puisque je représente la justice, que vous êtes soupçonné, pour différentes raisons, d'avoir empoisonné M. de Chantepie. »« Ridicule !» dit-elle avec un geste de dédain. « Je l'espère !» Mais pesez vos paroles. Je vous préviens que, au point où en est arrivée l'instruction, chacune de vos réponses pourrait devenir une charge contre vous. Les grands yeux de Mlle de Plémont exprimèrent une surprise mélangée de révolte. Que m'importe l'instruction? Je dirai la vérité, monsieur, ni plus ni moins. Monsieur de Chantepie est mort à la suite d'une injection d'aconitine. Vous aviez l'habitude de lui faire la lecture après le dîner et, avant de le quitter, de préparer la piqûre de morphine dont il faisait souvent usage. Il a refusé dimanche soir.
Ah !
Pouvez-vous en donner la preuve ?
Mais je l'affirme sur l'honneur, monsieur, c'est suffisant.
Monsieur de Monvois eut un mouvement d'impatience.
Non, mademoiselle, ce n'est pas suffisant. Voulez-vous me dire pourquoi, vous et votre mère, vous avez quitté à 6 heures lundi matin votre appartement sous prétexte d'un voyage, en réalité pour vous cacher ?
Une vive rougeur envahit jusqu'au front de la jeune fille.
Vous touchez là, monsieur, à une question intime, absolument personnelle, à laquelle je ne répondrai rien,
dit-elle presque en balbutiant.
Mieux vaudrait répondre dans votre intérêt, mais enfin, comme vous voudrez. Nous éclaircirons ce point sans votre concours. Connaissiez-vous les propriétés de la conitine ?
Oui, monsieur. Pendant une longue maladie, ma mère a été traitée par ce poison, et le docteur Sebron m'en avait expliqué les effets.
Vraiment ? Et comment vous êtes-vous procuré la conitine ?
Je n'ai jamais eu d'aconitine en ma possession.
Dans un tiroir de votre commode, on a trouvé un papier contenant encore de la conitine. Ce papier était déchiré, et la déchirure s'adapte au morceau du même papier jeté sur la cheminée de M. Chantepie, par la personne qui, après avoir apporté le poison, l'a fait dissoudre dans de l'eau.
À tout ceci, je ne puis rien répondre, car je n'y comprends rien.
Prenez garde, mademoiselle, tel système de défense tournera à votre désavantage.
Je ne me défends pas, monsieur, car je n'ai pas à me défendre. Je dis ce qui est, c'est tout.
Et vous êtes bien allé chez M. de Chantepie dimanche soir ?
Oui, monsieur.
À quelle heure ?
À 9 heures.
Faites attention à vos paroles, mademoiselle, s'écria le juge.
Pourquoi ?
Mais malheureuse jeune fille, c'est à quelques minutes près, entre 9 et 10 heures, que le crime a été commis. On m'avait dit, mais sans préciser le moment, que vous étiez descendue chez votre cousin dimanche soir. Tout vous charge et vous dites avoir été chez M. de Chantepie à l'instant presque précis du crime.
Rappelez vos souvenirs. « N'est-ce pas plutôt à 8 heures que vous êtes allé dire adieu à votre parent ?»«
Non, monsieur. »«
Vous en êtes sûr ?»«
Très sûr. Je suis descendu à 9 heures. Au moment de quitter M. de Chantepie, il m'a demandé si sa pendule allait bien. Elle retardait et je l'ai mise à l'heure de ma montre. Il était exactement 10h20. »
M. de Monvois se renversa sur son siège et contempla avec infiniment de pitié cette belle jeune fille qui répondait avec tant d'honnêteté, tant d'insouciance apparente du danger, à des questions si graves. « J'ai vu, se disait-il, des femmes au visage de vierge n'être que des coquines, mais elles ne ressemblent guère à celles-là. Joue-t-elle la comédie et croit-elle dérouter la justice en se chargeant elle-même ? « Habile tactique, car elle a l'air aussi sincère qu'intelligent. »«
Mademoiselle, dit-il avec une subite brusquerie, saviez-vous que M. de Chantepie vous instituait son héritière ?»«
Je ne le savais pas d'une façon certaine, mais je m'en doutais d'après quelques mots prononcés par lui il y a quelque temps. Le fait nous avait toujours paru probable. Il m'aimait beaucoup et n'avait pas de parents plus proches. »«
Il y a peu de temps. » Avez-vous donc juré de vous perdre vous-même ?
Me perdre ? Pourquoi ? Devant l'absurdité de vos soupçons, pourquoi dissimulerais-je la moindre chose ?
Répliqua-t-elle d'un ton plus vibrant. Une violente irritation commençait à la dominer. Le magistrat s'en aperçut et ne laissa pas de s'en étonner.
Ou innocente, ou très forte, pensait-il.
« Saviez-vous, mademoiselle, que M. de Chantepie mettait des valeurs dans son secrétaire ?»«
Oui, j'ai entendu ma mère lui reprocher plus d'une fois son imprudence, presque toute sa fortune étant, paraît-il, en valeurs au porteur. »«
En effet, et vous le saviez. Saviez-vous également que votre cousin avait réalisé une somme de 10 000 francs qu'un employé du Crédit Lyonnais lui apporta la veille même de sa mort ?»«
Non, j'ignorais ce détail. »
Un détail important, mademoiselle.
Le testament a été ouvert. Monsieur de Chantepie vous laisse sa fortune. Elle est peu considérable, à la vérité, mais vous met à l'abri du besoin.
Pauvre ami!
Pour la première fois, depuis son entrée dans le cabinet du juge d'instruction, elle défaillit en se rappelant l'affection perdue qui avait été un si grand secours pour elle et sa mère pendant les années navrantes qui venaient de s'écouler. En la voyant pleurer, M. de Monvoy espéra obtenir l'aveu qu'il attendait. « Vous saviez que vous héritiez, dit-il, et vous avez voulu profiter d'une fortune qui vous sortait d'une position précaire, très pénible. »
« Et c'est moi, dit-elle avec une angoisse émouvante, moi qui provoque une telle pensée? Ne savez-vous pas que je travaillais avec courage, avec succès? Et il nous faut bien peu pour vivre à ma mère et à moi.
Vous, oui, mais vous n'étiez pas, vous n'êtes pas seule. Votre père ? » Elle baissa la tête et croisa les mains avec désolation.
« Avouez donc, dit doucement le juge, vous le voyez ? « Je sais tout. »«
Je n'ai rien à avouer, » s'écria Gertrude en se redressant d'un air indigné. « Monsieur de Chantepie était notre meilleur, presque notre seul ami. Dans notre malheur, il nous a soutenus, non seulement moralement, mais encore autrement. Il était excellent et généreux, mais malgré les apparences, il n'était pas riche, et d'ailleurs, nous ne voulions être à la charge de personne, et mon travail doublait la rente de ma mère. » En quoi donc avions-nous besoin d'une fortune acquise par un crime? C'est fou, c'est honteux de me soupçonner.
La colère la rendait plus belle, et son énergie, son sang-froid, en répondant au magistrat, frappait le greffier d'admiration.
Je ne demande qu'à croire à votre innocence, mademoiselle, reprit M. de Monvoy. Mais veuillez me dire si vous soupçonnez quelqu'un parmi les personnes qui approchaient M. de Chantepie.
« Non, monsieur, un étranger se sera introduit. »
Réponse fâcheuse dont elle ne comprit pas la maladresse.
« C'est inadmissible, mademoiselle. Quelqu'un a préparé l'injection qui a causé la mort. Ce ne peut être un étranger. En voyant chez lui un intrus, un voleur, monsieur de Chantepie eut sonné. Vous devez savoir qu'une sonnette électrique, communiquant avec la chambre de la femme de charge, lui permettait de l'appeler. » « Pendant que vous étiez dans l'appartement, vous n'avez rien vu de suspect, rien entendu ?»«
Rien. »«
Et cette femme de charge, quelle est votre opinion sur elle ?»«
Sophie, pas plus que moi, elle ne doit être soupçonnée. Du reste, elle était dans sa chambre ce soir-là. »«
Vous en êtes certaine ?»«
Absolument certaine. Comme je descendais, elle m'a dit quelques mots, puis est rentrée chez elle pour se coucher. » C'est la meilleure des femmes.
Le magistrat, qui avait espéré qu'un indice, un détail, tournerait l'enquête de notre côté, se sentait découragé et fort désolé en pensant à ses bronnes.
Mais, reprit Gertrude, puisque vous connaissez notre malheur et notre honte, c'est donc vous, monsieur, qui en avez parlé à monsieur Sebron ?
En effet, c'est moi.
N'avez-vous rien de plus à dire aujourd'hui, mademoiselle ?
Aujourd'hui, n'est-ce pas fini? J'ai dit la vérité et je proteste de toutes mes forces contre l'accusation dont je suis victime.
Mademoiselle, cet interrogatoire succinct ne suffit pas. De plus, remarquez bien que vos réponses ont confirmé, non détruit les soupçons. Lorsque je vous reverrai, ce sera en présence de votre avocat qui vous conseillera et...
Mon avocat? Interrompit Gertrude avec désespoir. « Je n'ai pas besoin d'avocat, car je ne suis pas coupable, je ne suis pas coupable !»
Monsieur de Monvoy était très perplexe. En outre de sa bonté naturelle, la vue de Gertrude éveillait toute sa bienveillance.
« Pourquoi votre mère n'est-elle pas venue avec vous, mademoiselle? De toute façon, elle devait le faire. »«
Mon père se meurt, » répondit simplement Gertrude.
Si les soupçons contre vous sont fondés, il me paraît impossible que vous ayez agi à l'insu de Madame de Plémont.
Il y a 6 ans que je lutte contre le malheur. C'est une terrible école qui vieillit bien vite et apprend à avoir de la décision. Si j'avais commis un crime, je l'eusse fait sans en parler à ma mère.
Il faut qu'elle soit interrogée. Quelqu'un peut-il la remplacer auprès du malade?
Moi seule, murmura Gertrude à bout de force.
Elle se laissa tomber sur un siège et fit des efforts surhumains pour ne pas sangloter tout haut.
Monsieur de Monvoy passa dans le couloir où Sébron attendait.
« Le père est-il vraiment mourant, docteur ?»«
Mourant, mais dites-moi si... »«
Tout à l'heure. »
Poussé par sa bonté et puis par sa pitié en regardant Bernard, il arrêta sa manière d'agir.
« La justice n'est pas un bourreau et il serait trop cruel en ce moment de la séparer de sa mère. Je vais donc la laisser partir pour entrer chez elle jusqu'à ce que tout soit terminé. En attendant, elle sera sous la surveillance de la police. »
Sébron respirait difficilement.
« Les réponses, » dit-il brièvement.
Elle n'avoue rien et les réponses sont à sa charge.
« Que voulez-vous qu'elle avoue ?» s'écria Bernard en s'emportant aussitôt.
Monsieur de Monvoy, tout à son affaire, avait répondu sans réfléchir et en suivant son idée.
« Allons, Bernard, vous m'inspirez une sympathie extrême, mais du calme, je vous en conjure. Entrez dans mon cabinet, je désire que vous voyiez devant moi Mademoiselle de Plémont. »
En apercevant Sébron, Gertrude, à laquelle un accablement subit ne permettait même pas d'entendre les paroles encourageantes du greffier, se leva vivement.
« Mademoiselle affirme avoir été chez Monsieur de Chantepie à 10h20, » dit froidement Monsieur de Monvoy.
Gertrude regardait en face Sébron qui avait pâli.
« Je dis simplement la vérité, » répondit-elle. « Pourquoi me faire souffrir plus longtemps ?»«
Ne vous trompez-vous pas sur l'heure, » dit Bernard. « Avez-vous réfléchi à la gravité de cette affirmation ?»«
Je n'ai pas à réfléchir, et le vrai serait-il 10 fois plus grave que je ne le dissimulerais pas ?»
Et tout à coup, sous l'influence d'un doute terrible, elle tendit les bras vers Sébron en criant avec un accent qui bouleversa les assistants.
« Ah, vous doutez de moi ?»
Elle serait tombée si Bernard, courant à elle, ne l'avait soutenue dans ses bras.
« Gertrude, ma bien-aimée, quelle idée avez-vous eue ? Non, je ne doute pas, je ne douterai jamais, jamais. C'est inepte et monstrueux de vous soupçonner. »
Il la serrait contre lui et répétait tout haletant.
« L'erreur tombera d'elle-même, ne craignez rien. Pensez à moi, à mon amour, il ne vous fera jamais défaut. Je vous aime, je crois en vous plus qu'en moi-même. »
Elle pleurait, la tête appuyée sur le cœur, dont elle entendait les battements précipités. Le greffier contenait difficilement son émotion et Monsieur de Monvoy, très pâle, n'osait lever les yeux vers les infortunés. Son opinion était arrêtée et il voyait se dérouler l'avenir cruel.
« Docteur, dit-il, vous reconduisez chez elle Mademoiselle de Plémont ?»«
Oui, oui, tout de suite. »«
Partons, oh, partons !» dit Gertrude qui se ressaisissait.
« Un instant seulement, mademoiselle. »
Monsieur de Monvoy dit un mot confidentiel au greffier qui sortit immédiatement et, rentrant quelques minutes après, fit un signe affirmatif.
« Vous pouvez partir, mademoiselle, mais vous restez à ma disposition, car d'ici peu, j'aurai à vous questionner encore. Veuillez dire à votre mère que je voudrais la voir aujourd'hui à 4h. »«
Oui !»
murmura Gertrude, qui sortit à pas précipités. Sébron prit avec autorité la main de mademoiselle de Plémont, la passa sous son bras et descendit l'escalier qui conduisait presque directement dans la galerie des marchands.